tous et soyez les bienvenus sur edencast.fr pour ce podcast exceptionnel consacré à GNU Linux et aux logiciels libres. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va approfondir un sujet, ou plutôt revoir un sujet que j'avais pu aborder, mais sous un autre angle, qui est celui des distributions. Et en fait, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui Debian, qui est une distribution sous Linux, et sous un angle un peu particulier. Je vous le dis tout de suite, ce propos qui n'est pas spécifique à Edencast, je l'avais construit l'an dernier pour une conférence, n'a pas du tout été bâti pour être, si vous voulez, pour des gens qui connaissent Linux, le logiciel libre, et même il a été bâti pour des gens qui ne sont même pas censés connaître l'informatique. Donc c'est vous dire que il est fait pour tout le monde, et pour que vous compreniez un petit peu, ben voilà, qu'est-ce que le concept de distribution, et puis Debian, qu'est-ce que c'est Debian, c'est quoi cette chose dont on entend parler de nom quand on commence à taper un peu ces logiciels libres sur Internet. Eh bien, voilà, vous allez venir avec moi, je vais vous emmener en voyage, et on va rentrer dans cette institution, parce que c'en est une, c'est une véritable institution, et je vais vous faire découvrir d'abord ce que vous allez y trouver. On va faire une petite visite guidée ensemble. Et puis ensuite, on ira derrière pour voir les coulisses de cette grande institution.
L'accessibilité du logiciel libre. Une émission animée par Jean-Philippe et réalisée par Kevin sur edencast.fr.
Eh bien écoutez, soyez les bienvenus du coup devant ce magasin, puisque c'est bien ça qu'on va présenter aujourd'hui, c'est ni plus ni moins un magasin de la grande distribution. C'est un magasin qui s'appelle Debian et qui pourrait s'apparenter ni plus ni moins à Carrefour, à Leclerc, à Intermarché, bref à tous ces magasins de la grande distribution que vous connaissez. Eh bien oui, distribution, distributeur, dans l'accessibilité on en connaît d'autres, Access Solutions, Cessia... et autres distributeurs, eh bien dans le logiciel libre, il y a un distributeur qui s'appelle Debian, qui est une grande distribution, puisqu'elle a quand même plus de 25 ans, et qui est une véritable marque, hein, une marque qui se reconnaît à la qualité de ce qu'elle vend, à sa charte aussi de fonctionnement, qui est une véritable philosophie de la promotion du logiciel libre vis-à-vis de l'extérieur, et puis à ses institutions. Puisque oui, messieurs, dames, Debian a aussi une constitution. Et oui, une constitution pour régir les règles de son fonctionnement en interne. On y reviendra très rapidement en fin de ce podcast. Et venez voir, approchez-nous. Voilà, le panneau, il est ici. C'est un panneau qui tout simplement vous décrit ce que vend Debian. Et il vend des logiciels libres, en fait, hein, tout simplement. Donc des logiciels qui sont le plus souvent gratuits. Alors certains pourraient ne pas l'être, mais en pratique la plupart le sont, et Debian surtout ne fait de toute manière pas payer le consommateur. Donc c'est des logiciels qui sont gratuits et libres. C'est proposé sous forme de paquets, bien sûr, de paquets prêts à l'emploi, donc vous allez pouvoir visiter les rayons, rentrer, prendre un paquet de pâtes, le mettre dans le chariot. Ben là c'est exactement la même chose, c'est des paquets. C'est mis en rayon par des vendeurs bénévoles, hein, qui sont des responsables de paquets. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, écoutez, voilà, on va rentrer dans le magasin un peu plus en amont. La première chose à faire pour accéder au magasin et pour être dans le parking, je dirais, c'est de graver un DVD ou une clé USB qui contiendra au moins l'itinéraire pour aller jusqu'à Debian sur Internet. Hein, donc, au moins un petit truc qui va vous permettre d'aller quand même au magasin avec le bon outil, la bonne voiture quand même, histoire de ramener les paquets chez vous. C'est la première étape. Hein, vous pouvez les graver ou même en acheter. Il y a des prestataires aujourd'hui qui revendent des gravures de DVD et de clés USB Debian. Donc, n'hésitez pas à les solliciter et ils vous donneront ce qu'il faut. Et ensuite, vous pourrez, grâce à ce sésame, n'est-ce pas, vous rendre près du magasin. Ensuite, comment ça se passe? On installe évidemment le chariot. Voilà, vous êtes devant vos chariots, vous prenez votre chariot. Et avec ce chariot, vous allez rentrer directement dans le magasin. Alors évidemment, le chariot, il ne va pas faire tout seul. Il va falloir, évidemment, il va installer d'abord votre système. Il va préparer votre domicile, en fait. Hein. Votre ordinateur va être préparé pour accueillir le système. Donc il va faire de la place déjà, parce qu'il faut de la place. Il va créer une partition sur votre disque dur. Et puis quand tout ça sera bien en place, il va vous permettre un petit peu de faire votre choix. Alors comment ça se passe ? Vous allez tout simplement suivre un petit peu le chemin, le guide avec ce portique d'entrée que voici. Un portique d'entrée déjà je vous le dis, il n'y a pas de fouille, alors rassurez-vous, tout va très très bien. La seule chose, c'est qu'on va vous demander, si vous l'acceptez, de dire à Debian les paquets que vous allez utiliser, en fait. Alors là, l'idée, c'est juste que ça permet de savoir les paquets les plus populaires, et du coup, ça permet, quand on fait les CD que vous gravez directement, ça permet de les avoir tout de suite sous la main, sans devoir passer par le réseau et par Internet. Donc c'est juste à ça que ça sert. Ensuite, on va vous proposer de choisir le mode de livraison. Mais justement, est-ce que vous voulez être livré par Internet directement sur votre ordinateur, ou est-ce que vous préférez être livré par une voie physique, c'est-à-dire que les paquets vont être tous sur des DVD ou une clé USB, et vous allez ne pas avoir besoin d'Internet en fait, pour les installer, puisque vous allez avoir une espèce de copie du magasin avec vous. Alors sachez que si c'est sur DVD, ça prend quand même 18 DVD pour avoir l'ensemble du magasin, donc c'est pas rien. Par contre, sur clé USB, ça peut, et puis vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le magasin. Vous pouvez prendre juste les quelques premiers DVD, et sur cette base, vous pouvez comme ça avoir une copie du magasin et être livré chez vous par ce biais, et non pas par celui d'Internet. On vous suggère aussi là des quelques rayons quand vous rentrez, parce que on considère que la plupart des gens, quand ils vont faire leurs courses, on sait un peu ce qu'ils veulent, quoi. Typiquement, quand on va faire des courses en informatique sur Internet, on veut des logiciels. Alors on va partir de vos usages. Donc si vous voulez un bureau, vous allez rentrer dans un rayon plutôt sur le bureau. Si vous voulez un serveur pour par exemple abriter un site internet, vous allez aller sur le rayon qui va bien, etc. etc. Et d'ailleurs, quand vous allez choisir le rayon, donc vous allez le cocher, automatiquement dans le chariot, vous allez avoir tous les cartons, les paquets qui correspondent à ce thème. Alors ce thème, pour être précis, il y a au bureau par exemple, vous allez avoir un bureau qui va s'installer. Ce qui fait que quand vous allez rentrer chez vous, au moment où vous allez redémarrer votre ordinateur, vous allez avoir un bureau, tout simplement, qui va être en place, qui va être prêt à l'utilisation. Parce que tout ça c'est automatique. Oui, la pause est offerte. La pause est offerte.
Sur iPhone, Android, depuis Mac, un PC sous Windows ou Linux. Écoutez Edencast.fr.
Maintenant, on va rentrer un peu pour visiter dans le détail les rayons. Figurez-vous que dans le magasin Debian, il y a 60 000 paquets. C'est vous dire un peu le volume que ça représente. Qui sont rangés par thématique et que vous pouvez visiter librement. Alors il y a des outils pour ça, graphique, pas graphique, accessible, moins accessible, bref, il y a vraiment de tout pour visiter les rayons, leur contenu, les thèmes, avec vous allez pouvoir du coup passer devant des cartons avec des descriptions. Il y a de tous les thèmes, il y a de la technique, des jeux, de la jeunesse, de la bureautique, il y a même des paquets sur les dates des menstruations, il y a vraiment plein de choses, imaginez 60 000 paquets. Et puis il y a des domaines très scientifiques, il y a des domaines sur la médecine, il y a des domaines sur l'astronomie, sur l'astrophysique, sur les maths, les statistiques, bref, il y a vraiment plein de choses pour tous les niveaux, et des choses pour les enfants aussi d'ailleurs, il y a vraiment plein de choses, voilà. Il faut que vous sachiez que quand vous choisissez votre paquet, le vendeur souvent va vous proposer d'autres paquets. Alors c'est pas de la vente forcée, je vous rassure, c'est pas l'idée. L'idée c'est plutôt de vous proposer des paquets qui pourraient mieux faire fonctionner le premier. Et puis il y a d'autres paquets où il va vous les imposer par contre. Il va vous dire si tu veux acheter ce paquet, il n'y a pas de problème, mais tu prends aussi tout ça. Et ça c'est parce que c'est des accessoires indispensables en fait. C'est-à-dire que ça c'est des paquets qui, si vous ne les avez pas avec vous, vous pourrez jamais monter le meuble en fait. Là c'est exactement pareil. Et on n'est pas comme dans des magasins de meubles, vous savez, où on vous vend des matériels de montage. Par contre on vous dit que... par exemple, ou des magasins d'électronique, j'ai vu ça aussi, où on vous vend le matériel, puis on vous dit on n'a pas vendu le câble avec. Parce qu'on peut aussi le faire en Wi-Fi, donc il n'y a pas le câble. Non, là il y a tout. C'est-à-dire que là, si jamais il y a quelque chose qui est susceptible d'être indispensable, c'est fourni et ça vous est mis dans votre chariot au moment où vous choisissez votre carton. Soyez attentif par contre à ça, parce que typiquement, si vous vous apercevez que s'il y a quoi 10 produits, ça va, s'il y a 10 cartons qui accompagnent le produit que vous avez choisi, c'est pas grave. Par contre, si vous commencez à en avoir 60, c'est que vraisemblablement, vous êtes peut-être en train de faire quelque chose de pas souhaitable. soit parce que vous êtes en train de réinstaller tout un bureau et là il faut se poser la question si c'est vraiment ce qu'on veut, soit c'est voilà, il faut savoir ce qu'on fait quoi. On est un peu attentif à ce qui se passe quand même quand on récupère tous ces cartons avant de payer, avant de passer à la caisse et d'emporter tout ça chez soi, on se dit oula, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, voilà. Parce qu'à l'arrivée, même si ça n'a pas de conséquences, ça peut vite devenir un peu le souk chez soi. Donc un exemple très simple, hein, si vous êtes devant un meuble, vous le prenez et puis le vendeur vous dit bah non mais en fait ça s'inscrit dans telle collection et du coup il y a tout avec en fait. Bah si vous avez déjà une collection chez vous, vous allez peut-être pas prendre toute la collection en fait, donc vous allez peut-être juste soit renoncer au meuble et essayer de prendre quelque chose qui appartient à la collection que vous avez déjà histoire que ça soit sorti, soit vous allez accepter, mais dans ce cas là vous le ferez en connaissance de cause et parce que vous pouvez. Alors il faut que vous sachiez que Debian aussi c'est comme n'importe quel magasin, il y a des collections, hein, c'est des collections printemps, été, automne, hiver, ben là c'est pareil, sauf que chez Debian les collections elles durent 2 ans et demi à peu près. Et donc vous pouvez très bien par exemple, parce que vous vous êtes avant renseigné sur certains produits, dire mais attendez, le problème c'est que là moi je sais qu'il y a une nouvelle version qui est sortie de ça par rapport à ce que vous me proposez en rayon, et vous pouvez demander au vendeur du coup mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à la version plus récente. Et il arrive souvent que le vendeur vous réponde oui. Il arrive que il y a les systèmes qu'on appelle des backports où en fait le produit plus récent peut être mis à votre disposition, mais ça faut en faire une demande spéciale au vendeur parce que c'est pas mis en avant officiellement, parce que bah c'est pas considéré comme ayant suivi tout le processus qualité que je vous décrirai tout à l'heure. Et donc, bah, du coup, c'est bien là, vous pouvez le mettre chez vous si vous voulez, mais il faut le demander au vendeur. Ça, c'est pour le rayon le plus soutenu par Debian. Après, il y a d'autres étages auxquels vous pouvez monter, évidemment. Et ça, bah, vous pouvez y aller, hein, mais il faut le demander. Pareil, il faut l'ascenseur, il faut la clé, il faut tout ce qu'il faut. Et alors, il y a deux étages, en fait, supplémentaires. Le premier, c'est un étage qui contient des paquets qui respectent les conditions de licence classique, hein, libre, logiciel libre, tel qu'on les connaît, mais dont le fonctionnement repose quand même beaucoup sur des logiciels qui, eux, ne sont pas dans des licences libres. Alors, par exemple, vous avez une plateforme qui permet d'héberger des synthèses vocales. Bon, eh ben, il y a un petit morceau de cette plateforme qui est dans cet étage-là. Pourquoi ? Parce que bah, si vous utilisez, par exemple, les synthèses de Voxygen, qui aujourd'hui fonctionnent, hein, comme vous le savez, sous Linux, eh ben, oui, mais c'est des trucs pas libres du tout, ça. Enfin, ça, faut les payer et tout. Enfin, c'est pas libre. Donc, bah, du coup, le produit, il va pas être mis dans les libres, il va être mis dans cet étage intermédiaire où lui va être libre, mais pas ce qui permet de ce qui lui donne en fait son fonctionnement. Et puis, il y a un autre étage, non-free, où là, pour le coup, les produits sont acceptés parce que gratuits, parce que diffusables, mais pas libres au sens des licences classiques du logiciel libre. Et du coup, bah, ces produits, très franchement, voilà, bon, on les tolère parce qu'ils rendent service à nos clients. Donc par exemple, des pilotes pour faire fonctionner du matériel supplémentaire sur l'ordinateur, on accepte parce que sans ça, bah, l'ordinateur est difficilement utilisable avec Debian, donc c'est dommage. Pour autant, pas de soutien officiel. Donc on les met dans les outils, on les propose, on les cache pas non plus, ils existent, mais on les valorise pas. Hein, on ne valorise pas plus que ça. Question d'après, c'est ok, on a acheté ces produits, on est rentré chez soi, on a même testé, et si j'aime pas ? Eh, parce que dans tout commerce, gratuit ou pas, la question du satisfait ou remboursé se pose. Bah, chez Debian aussi. Et la réponse est simple, si vous n'aimez pas, vous rendez. Et vous n'êtes même pas obligé de retourner au magasin pour ramener les produits. Vous dites juste « j'en veux plus » en supprimant et hop, tout s'en va. Voilà, tout s'en va, ce que vous venez d'installer s'en va. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça parce que bah, c'est quand même plus ce que vous installez est lourd, plus il faut faire du ménage. Donc vous rendez le produit et parfois il faut ensuite passer des aspirateurs hein, pour enlever la poussière et enlever d'autres cartons et les rendre au distributeur. Rassurez-vous, le distributeur ne vous en tiendra pas rigueur. Vous pouvez aussi, et ça c'est important, demander à, quand vous avez Debian chez vous, demander à ce qu'il aille régulièrement comparer ce qu'il y a chez vous avec ce qu'il y a en magasin. Et vous allez voir que l'outil, quand il va se rendre compte qu'au magasin il y a des choses plus récentes, et ben, il va vous les ramener. Et après vous pourrez du coup les installer. C'est très conseillé, hein, quand on est dans cette distribution stable qu'est Debian, d'installer les mises à jour. Hein, faut pas se l'interdire, bien au contraire. La question d'après qui vient et que je conçois, c'est mais alors comment on parle aux vendeurs ? Alors ça c'est pas forcément simple, parce que les vendeurs sont très peu nombreux, on y reviendra tout à l'heure. Ils sont en fait, bon je vais vous le dire dès maintenant, ils sont 1500. 1500 pour gérer 60 000 paquets, plus toute la gestion du magasin, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous imaginez bien que ça ne leur laisse pas beaucoup de temps. Bon, puis il y a aussi que c'est des techniciens, et que les techniciens, c'est pas toujours leur fort, leur rapport au client. Hein. Ça, c'est une réalité. Alors, il faut, disons, premièrement, se fier aux conseils qu'ils vous donnent sur les étiquettes. Hein. Ils font l'effort de documenter, ils font l'effort de décrire, ils font l'effort de donner des noms, etc. Bon, commençons par ça. Ensuite, si vous avez un problème que vous n'aimez pas le produit en tant que tel, il faut bien se rappeler que nous ne sommes chez Debian qu'une grande distribution. Hein. Donc, si le produit n'est pas bon, c'est pas Debian qui est pas bon, c'est que le produit ne vous plaît pas. Auquel cas, s'il y a un dysfonctionnement dans le produit que vous aimeriez améliorer, parce que c'est quand même ça l'esprit du logiciel libre, il vaut mieux que vous alliez voir directement le fabricant et que vous discutiez avec lui. Et quand le fabricant aura corrigé, le carton en tiendra compte dans Debian, dans la collection suivante. Mais vous ne pouvez pas demander à Debian de corriger les problèmes du produit. C'est Debian n'assume pas, tout comme n'importe quelle distribution. J'en passe quelques exemples, mais il y a des exemples où moi j'ai appelé pour dire mon téléphone il me plaît pas trop, et on m'a dit allez voir le constructeur. C'est un petit peu pareil, c'est la même idée. Sauf que le téléphone il coûtait plus de 600€, bon ça c'est une autre histoire. Mais pour vous en tout cas, avec Debian ça coûte rien, donc forcément c'est déjà plus légitime. Si vous avez un retour par contre sur le paquet, parce que vous trouvez que la description est pas bonne, parce que vous trouvez que alors ça vous pouvez le faire, vous pouvez effectivement aller au SAV. Alors là, il y a un outil qui va vous emmener directement au service après-vente. Et là, vous allez dire à la caissière, j'ai ce produit-là qui a un problème à mon avis. Elle va elle va regarder le produit et elle va vous dire, sur ce produit, voilà tous les problèmes qu'on connaît déjà. Bon, à vous, normalement, de les lire pour voir si vous y retrouvez le vôtre. Souvent, c'est vrai qu'on ne les lit pas et qu'on dit non. Donc elle va vous dire, dans ce cas-là, vous remplissez le formulaire et vous allez pouvoir décrire votre problème. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment refaire en sorte que le vendeur puisse reproduire le problème et éventuellement des suggestions de correction. Et ce sera enregistré par le service après-vente et signifié au vendeur, bien sûr, qui pourra ensuite revenir vers vous pour vous demander des précisions ou pour vous informer des corrections. Par contre, évidemment, il n'y a pas de garantie sur le délai, sur des choses comme ça, mais sur le principe, ça fonctionne comme ça. Du coup, la dernière question qui vient du côté, je me doute bien, c'est « Mais alors, dans ce contexte, c'est quoi Ubuntu, Fedora, Arch Linux, machin ?» c'est tout simplement des concurrents, en fait. C'est des concurrents. Alors, évidemment, les barrières sont pas si rigides que ça, parce que c'est pas une concurrence féroce non plus, c'est quand même amical. Donc, il n'est pas rare que Debian vende des paquets à des concurrents, comme à Ubuntu, par exemple, lesquels peuvent ensuite ajouter leur touche personnelle au carton d'emballage et à la manière dont ce paquet va se comporter. C'est pas rare que l'inverse se produise, évidemment, le terme vendre étant tout à fait galvaudé, puisqu'on ne parle jamais de vente dans le logiciel libre, en l'occurrence pas entre les acteurs, mais entre magasins, les gens partagent. Ils partagent, ils récupèrent, ils mutualisent. C'est quoi la différence? Le décor, tout simplement. Une bonne partie est différente. Vous verrez, le chariot, il n'est pas de la même couleur, il n'est pas pareil, le portique n'est pas le même. Par exemple, Debian, il est un peu austère. Le chariot, franchement, il est un peu austère. L'accessibilité de l'installeur, elle est un peu... Sur Ubuntu, c'est un peu plus joli, on va dire. Il y a aussi des règles différentes dans la politique de mise en emballage. Très, très clairement, il y a des vraies différences qui, au niveau de l'utilisateur, se voient pas forcément quand on n'est pas technicien, mais qui existent qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met pas en avant. Par exemple, Ubuntu va pas hésiter, à mettre les paquets non libres. Ils vous les proposent et ils vous les installent si vous en avez besoin. Debian, ils vont pas le faire. Ils vont les mettre à disposition, mais c'est vous qui allez devoir faire l'effort. Donc c'est une politique commerciale qui est clairement différente. Il y a aussi cette histoire de mise à jour dont je vous parlais, puisque la collection chez Debian se renouvelle à peu près tous les 2 ans et demi, alors qu'il y a d'autres distributions où ça se renouvelle plus souvent, et il y en a qui préfèrent les autres distributions, précisément parce que le renouvellement est quand même beaucoup plus rapide. Debian, c'est un fonctionnement beaucoup plus processualisé, c'est-à-dire que le paquet, d'abord, il arrive dans le magasin, mais dans un magasin un peu un clone, on va le mettre là déjà pour commencer. S'il n'a pas causé de difficultés auprès des gens qui le testent, des vendeurs qui testent, on va le placer dans un autre magasin. Mais oui, c'est immense, Debian. Il y a 3 magasins qui sont la copie, l'un de l'autre, avec des versions différentes à l'intérieur des paquets. Donc dans le magasin de test, on va regarder si ce paquet n'entraîne pas de conséquences et n'est pas lui-même inutilisable. Et puis si ça fonctionne, dans ce cas-là, on passe en rayon et puis c'est à votre disposition. L'idée, c'est d'éviter que y a des dysfonctionnements qui touchent le client final. Hein. Donc c'est pour ça que ça prend son temps. Et par contre, bon, là, il y a d'autres distributions qui là-dessus sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est après, voilà, comme vous diriez, je préfère Auchan à Leclerc pour telle raison. Et là, c'est Debian, c'est une distribution parmi d'autres. Et vous avez la possibilité de faire qui vous voulez. On a fait la visite, maintenant on va aller en coulisses, n'est-ce pas? Et voyons un petit peu ce qui se passe dans les coulisses et qui fait partie de ces coulisses. Vous allez voir, j'ai quelques surprises pour vous.
Avec Edencast pour iPhone et iPad, bénéficiez de l'essentiel de nos actualités en mobilité. Rendez-vous sur l'App Store pour en profiter.
Là, on est vraiment passé dans l'arrière-boutique de Debian. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette boutique et qui on y trouve ? On y trouve beaucoup de gens, comme je vous le disais, 1500 personnes. Et ce qui est très surprenant quand on découvre cette institution, c'est que tous ces gens, on s'aperçoit qu'ils font plein de choses différentes, en fait. Et c'est ça qui crée la confusion, en fait. C'est que, du coup, on se dit, mais alors attends, parce que si tout le monde fait tout, c'est quoi l'organigramme dans cette distribution ? Alors, déjà, on peut commencer à parler des vendeurs, hein, qui, eux, font ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils prennent le produit tel qu'il est proposé par le fabricant. Par exemple, Firefox, ils écrivent du code et puis ils le mettent à disposition des autres. Mais si vous deviez installer le code de Firefox tel quel, croyez-moi, ce serait pas forcément très drôle. Alors, des distributeurs comme Debian récupèrent ce produit et le mettent dans un carton, facile à utiliser, facile à installer, à peu près sympa à voir, et vous permet du coup d'accéder à ce produit par l'intermédiaire de la distribution qui favorise la diffusion de ce genre de produit. L'empaquetage, par contre, il faut, rappelez-vous l'équation, hein. Il y a 60 000 paquets gérés par 1500 personnes. Ouais. Hein, ça explique aussi un petit peu, ça explique quand même des choses. Donc on prend le produit du concepteur et on en profite au moment où on fait l'emballage, évidemment, pour le tester, pour regarder l'assurance qualité, pour regarder qu'il fonctionne sans accroc et pour qu'il garde la couleur Debian quand même, hein, d'un point de vue fonctionnement, il faut qu'il en garde l'identité. Par exemple, le noyau Linux, qui est une des pièces importantes de l'ordinateur, quand il est livré chez vous, y a dedans pas la partie de ce noyau qui n'est pas sous licence libre en fait. Toute cette partie, elle a été enlevée par Debian parce que ça ne respecte pas leur couleur. Voilà, donc ça fait partie de ces choses. Il y a des versions du noyau, on est sur une telle version, et en fait, on a à l'intérieur des correctifs de versions supérieures. Pourquoi ? Parce que, Debian laisse sa collection, comme je vous le disais, sur 2 ans et demi, mais s'il y a des correctifs importants à porter à des paquets, on les apporte quand même. Donc, les paquets Debian, c'est un reconditionnement, un petit peu, des outils tels qu'ils sont proposés par les différents développeurs. Et après, il y a la logique aussi de distribution, hein. C'est un écosystème, donc on essaye de respecter la couleur de cet écosystème. Alors, comment on fait pour travailler chez Debian ? Évidemment, on est bénévole, alors ça c'est sûr. Même la carrière qu'on peut avoir, ce sera la carrière d'un bénévole. Il n'y a personne qui est payé par Debian. Alors, il peut arriver qu'on paye pour contribuer à Debian. C'est ce qui se passe dans l'accessibilité aujourd'hui, où IPRA paye des gens pour contribuer à Debian et pas que, et au logiciel, où il y a plein de gens qui payent Debian pour, enfin pas Debian d'ailleurs, mais qui payent des gens pour, par exemple, que les collections qui durent 2 ans et demi voient leur durée de vie encore prolongée pour des besoins d'entreprise, et donc ils payent des développeurs pour ça, mais Debian en tant que tel ne paye personne. Où ces gens travaillent ? Ces gens, pour se parler, ils travaillent dans des équipes sur des listes de diffusion, c'est-à-dire des mails en fait, hein. Ils passent par mail, où ils se racontent un peu du coup les différents échanges techniques. Ils chatent en instantané par des moyens comme IRC, qui est un vieux protocole de chat. Et puis ils vont récupérer leur travail, alors à la fois sur le système du SAV que je vous décrivais tout à l'heure, et puis sur des systèmes aussi internes. Il y en a un qui s'appelle Salsa par exemple, qui est tout simplement le centre de la manutention. C'est là où vraiment il y a toute la manutention, les paquets, l'arrivée des paquets, le dépôt des paquets, la machinerie pour que les paquets fonctionnent, etc. etc. Et puis il y a toute une... ils ont un annuaire interne évidemment, ils ont une base de données, etc.
Des podcasts, des articles, des forums de discussion et même du live, c'est sur www.edencast.fr. edenkast.fr.
Essayons d'aller voir un peu les métiers de Debian. D'abord, intéressons-nous aux métiers, disons, pour les techniciens, les métiers techniques. D'abord, il faut que vous sachiez que ces gens, comme on est quand même à l'échelle internationale, parlent anglais, très essentiellement. Que font les techniciens ? Les techniciens, ils empaquettent. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils mettent en rayon, ils mettent les étiquettes, etc. Donc, ils font vraiment leur travail de responsable de paquet. Ensuite, ils peuvent proposer librement un nouveau paquet. C'est-à-dire qu'un vendeur est tout à fait libre, s'il a découvert sur le marché un produit, de dire « Tiens, ce serait quand même bien que Debian le propose en distribution. » Et donc, il va faire le carton et le proposer. Alors après, s'il est membre à part entière du projet, il va pouvoir directement le soumettre dans les processus de validation interne. Donc il va le faire son paquet, il va le mettre dans la réserve. Et c'est les gens qui s'occupent de la mise en rayon qui vont, avant de lui permettre de le ranger, dire il respecte bien la licence, ça a été fait proprement, tout va bien, donc tu peux le mettre en rayon. Par contre, si on n'est pas membre du projet, on peut aussi proposer des cartons, mais là pour le coup il faut un processus différent où vous avez un mentor qui vient pour prendre votre carton, regarder que vous avez fait le travail, vous aider à l'améliorer et comme ça vous accompagner dans l'introduction dans le magasin du produit. Et c'est souvent comme ça qu'on commence d'ailleurs, on commence, on est extérieur, soit on aide des équipes à faire des choses, soit on apporte ses propres paquets et on se fait aider pour les faire intégrer dans Debian par des gens qui ont fait beaucoup de paquets et qui maintenant font peut-être un peu moins, ont envie peut-être un peu plus de penser à leur succession et à aider les autres, et donc ils vous aident à faire ça. Après c'est pas forcément toujours aussi simple parce que d'abord c'est long, et puisqu'on n'est pas très nombreux, donc c'est forcément long. Et puis parce que faut faire attention aussi à certains paquets, parce que à partir du moment où ils demandent des changements dans d'autres paquets de Debian, là ça veut dire qu'il faut faire de véritables discussions avec les autres vendeurs, et ces discussions peuvent être potentiellement un peu longues et un peu techniques. Un technicien peut aussi aider à des travaux de back-office, parce que comme tout magasin, il y a donc ce que vous voyez vous quand vous êtes en magasin, puis il y a ce qu'il y a derrière. Alors, il y a tout un travail pour, par exemple, concevoir le chariot. C'est pas si simple, un chariot électronique. Il faut le concevoir. Le vernissage des paquets, c'est pas non plus... Ça fait partie des choses que peuvent faire des techniciens pour mieux les présenter, pour mieux les afficher, pour être sûr que leur sécurité est garantie, pour être sûr que tout est cohérent. Il y a des équipes transversales, par exemple, dans Debian. Vous avez l'équipe d'accessibilité, par exemple, qui a passé son temps à faire le tour des rayons, et quand il y avait la possibilité, par exemple, dans un paquet d'activer l'accessibilité, on a activé l'accessibilité. Et c'est grâce à cette équipe que le chariot est accessible aujourd'hui, d'ailleurs. C'est l'installeur aujourd'hui de Debian est accessible. Alors, on pourra se plaindre de son ergonomie. Toujours est-il qu'il est accessible. Et cette accessibilité, c'est fait par cette équipe. Donc il y a des équipes transversales comme ça qui aident les autres à apporter à leur paquet une couleur un peu plus accessible, un peu plus diverse, un peu plus ouverte. Bref, c'est des équipes techniques transversales qui aident les autres. Un technicien peut aussi se consacrer, quand il a pas mal d'expérience dans ce paquetage, etc., à aider ses propres équipes. C'est-à-dire que l'idée, c'est améliorer les conditions de travail des autres, en fait. Donc là, comment il fait ? Il va aider à en paqueter, évidemment. Il va maintenir l'infrastructure pour que ce soit plus automatique, plus facile, plus sécurisé aussi, qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. etc. C'est pas parce qu'on est technique qu'on est forcément... on n'est pas un ours, donc on peut très bien aller aider les équipes à faire du service après-vente en récupérant les problèmes posés par les gens, reproduisant les problèmes, échangeant avec les gens, éventuellement en transmettant aux fabricants les problèmes rencontrés, etc. etc. Donc ça, c'est partie des choses tout à fait possibles. Et puis, beaucoup plus intéressant, les non-techniciens peuvent faire partie de cette arrière-boutique. Alors, oui, parce que gérer un magasin, vous imaginez bien, c'est comme Carrefour, quoi. Il y a les gens qui mettent les produits en vente, les manutentions, etc. Et puis qui font le marketing, mais il y a aussi ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est considérable quand on gère un truc aussi gros. 60 000 paquets, 1 500 personnes... internationalement, c'est quand même très gros. Alors, les gens ici, à quoi déjà ils peuvent servir ? À traduire, tout simplement. Déjà, Debian, notamment pour le fameux service après-vente, a besoin de gens dans les langues de tous ses utilisateurs, et donc c'est toujours bien d'avoir des gens pour aider sur des listes des utilisateurs dans sa langue. Au passage, le français est probablement l'une des langues les mieux supportées, après l'anglais bien sûr, et c'est la langue la plus facile à supporter aujourd'hui dans Debian, hein. c'est clair. On peut du coup, dans ce cadre-là, quand on n'est pas technicien, se faire aider, puis récupérer des éléments pour traduire, ni plus ni moins, les éléments du paquet, parce que les vendeurs, eux, ils mettent tout ça en anglais, hein. Donc après, derrière, il faut que des traducteurs viennent pour que ce soit traduit dans une langue, typiquement en français, que le panneau d'affichage soit traduit en français, que la description sur l'étiquette soit traduite en français, et que tous les supports soient traduits en français. Ça peut être tout à fait une tâche extrêmement intéressante. Pareil aussi au sens du design, hein. Autour du paquet, on peut avoir des conventions, des couleurs, des choses comme ça. Ben, tout ça, ça peut être fait par des non-techniciens, hein. Tout comme il est important d'assurer la promotion de ces paquets, la promotion du magasin Debian. Donc il y a un service de presse, il y a un service de publicité, il y a un service qui gère le site internet, il y a un service événementiel, il y a avec des traductions, toujours aussi, hein, c'est très important. Donc toute cette partie, on va dire, qui n'est pas la partie empaquetage proprement dite, mais la partie vie de la distribution, eh ben, c'est les non-techniciens souvent qui le font, et c'est extrêmement important. Et puis on peut aussi entraider des utilisateurs ou aider les vendeurs eux-mêmes, parce que même si on n'est pas technicien, on a le droit d'aller regarder un petit peu le SAV, éventuellement de leur dire « bah oui, moi aussi j'ai ce problème », éventuellement de soi-même rapporter le problème au concepteur originel. Bref, on peut faire ce genre de choses, en triant un peu les remontées, en faisant les rebasculements. On peut faire ça, je veux dire, c'est pas d'une technicité non plus absolue. On peut tout à fait aider les équipes techniques à faire ce travail. Et puis enfin, on peut participer à cette grande direction générale qui existe quand même, qui a des tâches pour le faire. Il y a des instances, notamment dans Debian, qui aident à la coordination des équipes. Alors vous avez par exemple un comité technique, donc quand deux équipes sont pas d'accord et qu'il y a des conflits du coup au niveau de la manière d'empaqueter des choses, parce que deux paquets ensemble ne fonctionnent pas alors qu'on aimerait que ça fonctionne, eh bien il y a des arbitres qui ont été élus, souvent parce que c'est le leader qui les a délégués et que la communauté, comme elle élit le leader, elle a élu aussi ces gens, et donc qui tranche des arbitres. On a donc le leader, comme je vous le disais, lui il est élu, hein, c'est un projet profondément démocratique, Debian, même douocratique, dit-on, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est ceux qui font, qui tirent leur légitimité par ce qu'ils font, tout simplement. Et puis on a des équipes aussi qui assurent ce qu'on appellerait le team building, c'est-à-dire qui gèrent le fait que les relations entre les gens se passent bien. Il y a aussi des gens qui aident à rédiger les documents constituants. Bah oui, parce que la constitution, les grands principes du packaging, tout ça, faut le rédiger. Et il faut le mettre à jour aussi. Et ça, il y a des gens qui s'occupent de ça, qui s'occupent de traduire aussi et de faire ces documents. Et c'est très important d'avoir une réflexion, même parfois institutionnelle, juridique, sur le fonctionnement interne de Debian d'un point de vue ressources humaines. Et puis il y a aussi des gens qui s'occupent des ressources humaines proprement dites, c'est-à-dire qu'elles vont vous accompagner quand vous rentrez pour poser votre carton, et bien elles vont vous accompagner pour éventuellement, si vous le souhaitez, être recruté dans Debian et faire carrière dans Debian. Ça peut vous aider. Et puis enfin, il y a ceux que je désignais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le paquet est fait, même s'il est fait par un membre de Debian, eh bien il y a toujours quelqu'un qui va regarder un peu le paquet pour voir s'il est bien sous bonne licence, si tout va bien, et lui dire ensuite, ok, tu peux le mettre dans ton rayon, mais il y a toujours ce regard un petit peu quand même extérieur, autant juridique que technique, mais le regard juridique, c'est des non-techniciens qui peuvent assurer ça. Donc vous voyez comme quoi ça fait partie de l'équipe.
Vous écoutez Edencast.fr.
Alors, quelle est la carrière dans Debian ? Je vais prendre un exemple qui est celui de la traduction. Parce que c'est un exemple que je connais bien, et ensuite parce que c'est un exemple qui n'est pas du coup technique. Donc c'est plutôt intéressant. Généralement, on arrive doucement, hein, dans ce genre de truc. Hein. C'est grand, Debian. C'est grand, c'est des institutions anciennes, il y a beaucoup de monde. Donc on essaie de pas non plus... Vous voyez, c'est les gens qui arrivent avec en fanfaronnant, c'est rarement très 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 porteur. Donc on arrive, on relit doucement ce que font les autres, parce qu'en traduction, il y a des processus de relecture pour que ce soit de qualité. Donc on relit, on discute, on aide les utilisateurs, dans la langue qu'on veut par exemple. On essaie de comprendre un peu les processus, les traductions, les possibles évolutions, les raisons d'être aussi, il y a des raisons historiques dans tout ça. Ensuite, on commence à traduire, évidemment, pour ceux qui veulent. Donc là, on traduit typiquement des étiquettes, la description, on traduit des panneaux, on traduit des choses comme ça. Et puis, des choses un peu plus approfondies, des écrans, des pages de manuel, des choses un peu plus élaborées. des documentations un peu plus... Enfin, documentation ou documents d'ailleurs un peu plus profonds, comme le site d'internet, comme la documentation elle-même, des documents constitutionnels, documents officiels. Par exemple, quand il y a le vote pour le leader, il y a des équipes qui traduisent les documents de campagne des leaders en français. Hein, donc ça, c'est important. Et ça, c'est de nouveau, il n'y a pas de technicité là-dedans. Donc ça peut être ça. En général, c'est long, faut le dire, on met du temps à comprendre Debian, qui est toute une culture sociologique, très clairement, qu'on soit technicien ou pas. Donc on met du temps. Quand on est technique, ensuite, on devient responsable du paquet, c'est-à-dire que les paquets qu'on a soi-même amenés ou qu'on a soi-même pris en main, eh bien, on en devient responsable, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation de les mettre directement en rayon et de les gérer directement, en fait, sans passer par un mentor. Donc ça, c'est la partie en général. On peut aussi, d'ailleurs, quand on rentre dans Debian, récupérer des paquets que plus aucun vendeur ne gère. Parce qu'il faut savoir quand même que Debian, tout est fondé sur le volontariat. C'est-à-dire que même les règles les plus fondamentales, il y a un moment donné, vous n'êtes jamais obligé de les suivre, en fait. Si elles vous plaisent pas, vous ne les suivez pas. Et tant que vous n'impactez pas la communauté, personne ne vous dira rien. Si par contre vous l'impactez, ils vont vous le dire et vous allez vous retrouver marginalisé. Et donc, vous partez. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'obligation juridique de faire. Donc, il y a des paquets qui sont dans le rayon, mais on ne sait plus très bien ce qu'ils y font, d'ailleurs, parce que leur état n'est plus vérifié, n'est plus contrôlé, c'est plus mis à jour. Et donc, on peut, quand on rentre dans Debian, commencer par maintenir ces paquets-là, récupérer ces paquets, et essayer un petit peu d'apporter du nettoyage, du rafraîchissement, etc., si le paquet nous intéresse, bien évidemment. Et quand on a suffisamment d'expérience, donc là je parle généralement de un an pour rentrer et connaître un peu la culture, à peu près un an pour être responsable d'un paquet et rentrer là-dedans, et puis ensuite on devient développeur, c'est-à-dire membre à part entière. Alors ça change pas grand-chose, parce que on continue à maintenir des paquets, sauf si on n'est pas technique, puisque c'est le seul statut qui permet d'être entre extérieur et membre à part entière du Debian. Ça change beaucoup de choses d'un point de vue juridique, parce que là, on a le droit de voter. Donc là, on vote pour le projet, on vote pour Debian, le leader, par exemple, pour des choix, s'il y a des textes, des résolutions, on peut voter. Bref, on participe vraiment à la vie institutionnelle du projet. Qu'on soit technique ou qu'on ne le soit pas, on a le même statut. On est membre à part entière du projet et on est membre du projet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on peut, du coup, quand on est membre... rentrer dans des processus de par exemple d'élection, on peut se faire élire pour participer à des instances, comme par exemple être leader, on peut être leader et non développeur. Tout ça, je répète, est démocratique. Après, c'est à chacun d'asseoir sa crédibilité, sa respectabilité avec sa compétence et d'être élu. Et ça, ça se passe clairement en travaillant, en aidant, en contribuant et en portant des choses. C'est sûr que si vous avez un conflit, par exemple, entre un traducteur qui a traduit plus de 10 000 étiquettes et quelqu'un qui vient d'arriver avec 2 étiquettes, on va quand même, au niveau de la légitimité, plutôt soutenir celui qui en a fait 10 000. D'abord par respect pour lui, et parce que malgré tout, son expérience parle aussi. Donc on peut pas, faire n'importe quoi. Et bien voilà, vous avez fait avec moi le tour de Debian, dans l'avant comme dans l'arrière-boutique. Pour résumer, je dirais que Debian, c'est un magasin de la grande distribution normale, avec du personnel, avec des intérêts divergents au sein de sa communauté, avec des équipes transversales, thématiques évidemment, avec des équipes produits du coup, des équipes d'appui, des équipes qui aident les autres à travailler. Mais voilà, personne n'est obligé de rien, ça c'est ça qui est absolument magique. On peut travailler dans son coin, tant qu'on gêne personne, après tout, on va pas nous taper dessus. On peut refuser de faire, et puis dans ce cas-là, on peut aussi partir sans que ça gêne personne, on n'a pas d'obligation. On peut travailler sans soutien officiel, mais on a quand même le droit d'exister. Et Debian accepte qu'on existe sans soutien officiel. C'est le cas des paquets sans licence libre. Debian n'est la filiale de personne, évidemment. Mais c'est une communauté humaine à part entière, avec tout ce que ça peut comporter. Les conflits, alors avec ce qui se fait de plus beau et de plus moche dans l'humain. Ça existe aussi. Il y a de tout. Malgré tout, le plus beau domine, parce que c'est quand même des gens généreux qui sont là-dedans. Donc s'ils y sont, c'est que l'état d'esprit derrière est bon. Et puis, du coup, il y a une autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de leaders dans Debian. C'est ce que je vous disais. Même le leader des leaders, il ne tranche pas. Il représente, éventuellement, il aide à canaliser des choses, mais il ne tranche pas. Donc, forcément, on a telle diversité ensuite derrière que... En fait, contribuer pour certains, c'est exprimer son humanité. Il faut le savoir aussi, il y en a qui attribuent beaucoup d'importance à faire partie de Debian et à y contribuer. Pour certains, c'est un outil de sociabilisation parce que c'est là qu'ils ont pu rencontrer, par les dialogues, par mail, etc., d'autres personnes, d'autres gens, et c'est du coup très très important pour eux. Donc le travail devient presque une forme de société, et c'est ça qui fait la particularité de Debian en tant que magasin par rapport à d'autres, où bah voilà, c'est des entreprises parfois qui sont derrière, ou c'est des communautés qui sont comme ça, mais il n'y a pas la même ancrage, il n'y a pas le même ancrage constitutionnel, institutionnel, qui fait que on est à la fois dans un processus de distribution, de travail de distribution, et aussi d'état d'esprit, de société et d'éthique. Écoutez, j'espère que cette petite visite vous aura plu, elle vous aura apporté des choses sur la compréhension de l'écosystème des distributions et de celui de Debian notamment. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée, à vous inviter à prendre bien soin de vous et de vos proches, à bien faire attention à vous, et à vous dire que je vous retrouve peut-être pour un prochain podcast, ou en tout cas pour des émissions sur Edencast en direct, on va voir. Mais voilà, en tout cas je resterai toujours autour de la sphère Edencast, et donc si vous avez des thèmes, n'hésitez pas à m'en suggérer, ça pourra aussi aider à faire de nouveaux podcasts.
Edencast.fr